Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
C'est Nicolas qui veut reparler avec Zorabitant, parce que tout à l'heure, quand on a évoqué le nombre de demandes de permis de chasse national, tu as eu une petite sortie qui a fait tiquer Nicolas, donc on va réécouter Zora et le dialogue ensuite.
Je peux pas, tradition ou pas, chasser des animaux, non. Pourquoi ? Il n'y a plus besoin. C'était une tradition avant. Pourquoi en 2019, au 21e siècle
Une tradition, c'est une tradition.
Non, mais peu importe.
Avant le corgo.
Bah, l'excision aussi, c'était une tradition.
Non,
bah,
non, alors, ça n'a jamais été une tradition française, l'excision.
Non, mais c'est une tradition qui est importée ici, et ouais. Voilà. Ouais, donc, bah, si on veut parler de tradition, bah, il y a des traditions dont on se passerait bien, c'est-à-dire tuer des animaux.
Nicolas, bonjour.
Salut les grands.
Bonjour gueules. Nicolas.
Salut.
Nicolas de la Haute-Vienne.
Et salut à Zora. Alors Zora, vous m'avez fait bondir. C'est, vous m'avez fait pleurer même parce que vous êtes quand même mieux, vous valez quand même mieux que ça. Comparer la chasse et l'excision, c'est quand même terrible. Alors je suis pas du tout chasseur, je suis comme vous, je suis même plutôt un chasseur sceptique, on peut dire. Moi, j'ai grandi dans un milieu où on chasse pas. Et par contre, je m'aperçois que vous avez pas la bonne image de la chasse, en fait. On pense que les chasseurs, c'est un peu les inconnus avec le bon et le mauvais chasseur, ouais. Mais c'est vachement plus que ça. Alors, il y a eu tous les débats sur la chasse à la glu, sur tout ce qui est même la vénerie, qui sont pas des formes de chasse géniales, je suis d'accord avec vous. Mais derrière, moi, aujourd'hui, ma ferme, c'est 200 hectares, c'est trois personnes qui visent, et j'ai besoin de produire des choses dessus. Et si j'ai des corbeaux qui me mangent la moitié de mon maïs, ou si j'ai des sangliers qui vont faire à peu
qui
près la même
la
chose.
La deuxième moitié.
Voilà, à peu près. Au final, derrière, j'ai des ragondins qui vont m'en manger encore un petit bout de plus. J'ai des chevreuils qui passent aussi. J'ai des blaireaux. J'ai besoin de cette régulation. C'est pas le loup et l'ours qu'on a relâché qui vont arranger les choses. Bien au contraire. Moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait cette régulation qui se mette vraiment en place et qui soit là pour m'assister. Aujourd'hui, un président de la FCA, c'est comme un maire. Il a une grosse responsabilité. Il est vraiment obligé de respecter un tas de règles, et c'est plus un soudard qui fait un banquet à la fin comme dans Astérix. Hein. C'est vraiment des gens qui sont respectueux des choses, et ça me gêne un peu de dire ça, mais moi j'ai besoin des chasseurs. Et demain, j'ai pas envie de me mettre à chasser. J'ai autre chose à faire le dimanche, mais des fois je me demande s'il faut pas que je m'y mette aussi, parce qu'il n'y en a plus de chasseurs, et toutes les mesures pour en ramener, elles vont dans le sens des
paysans. Alors, Zora vous répond, mon cher Nicolas.
Non, mais du point de vue, évidemment, pragmatique et de finalité de la chasse, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, mais est-ce qu'on peut pas passer à autre chose que des chasseurs pour réguler tout ce que vous expliquez sur la relation entre la ferme, la culture, l'agriculture et puis les animaux? Parce que aujourd'hui, il est clair que l'évolution, c'est les véganes, on tue pas d'animaux, la protection des animaux, etc. Donc c'est quand même la tendance, elle est quand même à stigmatiser et à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait plus de chasseurs. Parce que tuer des animaux, vous pouvez expliquer ça à tous les fervents défenseurs des animaux, personne ne vous donnera raison, même si vous mettez en face toutes les bonnes raisons que je viens d'entendre.
Ça, c'est une raison. Alors ça, c'est un raisonnement de gens qui sont pas vraiment confrontés avec...
Qui sont bien nourris déjà, Nicolas. C'est un raisonnement de quelqu'un qui a le ventre plein. Parce que quand il n'y aura plus que des végans et puis que les sangliers, ils ont bouffé tout le tofu, enfin tout le soja pour faire du tofu, eh ben il n'y aura plus rien à manger, quoi. Hein.
Exactement, Didier a raison. C'est une vision qui est quand même urbaine, la vôtre. Je la respecte. Hein. C'est votre vision parce que vous n'êtes pas confronté. Et chez moi, il y a aussi deux gîtes ruraux et on accueille des gens. Donc ça s'appelle le Boucheron de Bénac, c'est à côté de Limoges. Ah, et on accueille souvent des gens qui sont pas du milieu, et on fait systématiquement une visite de la ferme pour que les gens viennent, puis ça permet de dialoguer. 95% de gens passent, on fait aussi visiter à l'office du tourisme, on fait visiter à 300 personnes notre ferme. Ben, les gens ont la même image que vous, il faut plus tuer, il faut plus rien toucher, être dans une espèce de démarche hyper contemplative, mais c'est pas ça. Moi, ma ferme de 200 hectares, s'il y a trois personnes qui travaillent, c'est parce qu'il y a un élevage. Parce qu'on tue les animaux, on les tue avec respect, pas avec humanité, parce qu'on ne traite pas des animaux avec humanité.
On les mange.
On les traite avec respect pour les manger et pour qu'ils ne soient pas gaspillés. Et la chasse, c'est pareil, on ne tue pas les sangliers pour le plaisir de les tuer. Ah. On essaie de réguler, ouais. On essaie pas de tuer la mère.
Il y a quand même des fois des animaux qui sont tués pour le plaisir de tuer. Faut pas me raconter qu'il n'y a qu'une chasse qui est. Il y a aussi une chasse qui fait partie de notre tradition, qui est le plaisir d'avoir un fusil et de tirer. Faut pas me la raconter.
Merci Nicolas. À bientôt pour d'autres discussions dans un instant. Suite du GG et vous, puis nous accueillerons Monsieur Emmanuel Le Chypre pour Radio Brunet. Le programme de Radio Brunet, midi 14h sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter?
RMC.
Nous sommes de retour.
Pour jouer en mauvais tour.
Afin de préserver le monde de la dévastation.
Afin de rallier tous les peuples à notre nation.
9h midi.
Afin d'écraser l'amour et la vérité.
Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée.
Alain Marshall.
Et Houston, on a un problème.
Vous êtes des grands malades.
Vous massacrerons jusqu'au dernier.
On peut discuter, peut-être.
On peut ni les acheter, ni les persécuter, ni les raisonner.
Les grandes gueules.
Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit.
Le GG vous continue dans un instant, mon cher Étienne Yebig. Ce sera pour toi. Nous serons du côté de Dijon avec Franck qui voudra reparler avec toi de la grandeur de la France. Mais avant toute chose, Monsieur Emmanuel Le Chypre, Radio Brunet, midi 14h sur RMC.
Bonjour à tous. Bonjour. Cher GG, bonjour.
Qu'est-ce que tu nous as prévu?
Eh bien, à midi, on va revenir sur l'augmentation du coût de la vie étudiante, parce qu'ils se plaignent toujours, les étudiants, c'est trop cher, on n'a pas les moyens, on démocratise pas les études. Moi, je dis que c'est pas vrai. D'abord, l'augmentation du coût de la vie, c'est pas un obstacle à la réussite scolaire. Le fait de travailler, c'est pas un obstacle à la réussite scolaire. Au contraire, parfois. Et puis, travailler pour payer ses études, donc ça coûte. Donc c'est pas un handicap. Et puis surtout, je vais y arriver, l'université en France ne coûte quasiment rien. C'est en partie pour ça d'ailleurs que les résultats sont mauvais. Donc si on payait les études plus chères, on aurait peut-être des meilleurs résultats. Et puis quand même, alors je vous entendais parler là des chasseurs. Donc on veut plus de chasseurs, on veut plus de cueilleurs, on veut plus de ramasseurs non plus, puisque maintenant on va en prison quand on ramasse du sable dans la mer, ou quand on ramasse
des galets.
Et moi je dis où le flicage s'arrêtera-t-il? En plus, c'est pas bon sur le plan écologique parfois de pas ramasser le sable. Donc laissez-moi ramasser mes coquillages et mes galets tranquilles.
32-16 pour réagir avec Manu Le Chypre entre midi et 2 sur RMC. On enchaîne le GG et vous. Donc on va réécouter Étienne. Nous évoquions la venue de Vladimir Poutine aujourd'hui, sa rencontre à Brégançon avec le président de la République. Et Étienne faisait un vibrant plaidoyer pro-européen. On réécoute Étienne.
Je trouve absolument absurde, et c'est la preuve de notre grand échec, que ce soit un homme politique français. La France n'a aucun sens face à un Poutine. Pourquoi on est obligé de se coucher devant les États-Unis, devant la Chine et devant la Russie?
Parce qu'on n'existe pas.
Mais si, justement, on pourrait exister. Je pense que là encore, comme tout à l'heure, il y a des tas de gens à l'intérieur de nos pays qui sont anti-européens et qui font tout pour supprimer le seul moyen de ne pas se faire bouffer entièrement par ces trois pays.
Franck, bonjour.
Bonjour les GG, bonjour Monsieur Libby, bonjour tout le monde. Zora, mes hommages. Bonjour de la Bourgogne.
Allez-y mon cher Franck, Étienne vous écoute.
Alors donc, moi je voulais intervenir par rapport justement à la vision un peu délétère de Monsieur Liebig, par rapport donc justement à l'Europe, par rapport à la conception que l'Europe ont. Moi ça fait quand même à peu près 15 ans que je milite, que je parcours justement toute ma circonscription en Côte d'Or avec les jeunes de mon ancien parti et de mon parti, pour justement faire comprendre aux gens que la France est la France. J'ai énormément voyagé, je peux vous assurer que quand vous parlez de Paris, c'est quand même quelque chose la France. Et puis encore, moi je voudrais aussi appuyer sur une chose, on est américanisé, certes, mais est-ce que vous pensez sincèrement que c'est l'avenir que les gens veulent pour la France? Vous voyez, moi je vous donne un exemple, encore une fois, je suis noir par exemple, j'ai été pendant quelques temps aux États-Unis, j'y ai vécu, je sais un peu le fonctionnement, et je peux vous assurer que je veux tout sauf un système à l'américaine en Europe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on ouvre les yeux et on se rend compte que 25 pays qui sont totalement disparates, avec pas la même religion, pas la même économie, etc., ça ne fonctionne pas et qu'il faut trouver vraiment une autre solution. Soit on continue à se voiler la face et on fonce droit dans le mur. Et en fait, les gens ne sont pas anti-européens, ils n'aiment juste pas cette Europe-là. C'est tout. Il faut juste peut-être en rebâtir une autre sur autre chose que ce qu'on a aujourd'hui.
Vous êtes très sûr de vous. Alors d'abord, la Côte d'Or, bonjour. Et je pense qu'il y a eu une tornade cette nuit et qu'il y a pas mal de toits qui se sont envolés.
Ça a été plus calme que ça. Ça va.
Et non, mais vous êtes sûr de vous. Moi, je vous dis qu'il y a effectivement, on est dans un véritable virage aujourd'hui. Je pense que la jeunesse de ce pays et la jeunesse qui arrive ne se pose même pas la question. Elle est européenne.
Ça, je suis pas d'accord.
Attendez, laissez-moi terminer. Elle est profondément européenne. Je pense qu'on est dans un des derniers sursauts d'une espèce de vieille France qui essaye de se dire que la France a la plus belle avenue du monde, le plus beau. Quand on dit France en Chine, tout le monde se met à genoux, mais c'est pas vrai. D'ailleurs, vous allez n'importe où, même dans les musées du monde entier, plus nulle part, c'est marqué en français. Le français a disparu en tant que tel. On existe. Moi, je veux sauver mon pays. Et je veux exister, continuer d'exister dans ma culture. Et le seul moyen qui nous reste face à des géants qui ne pensent qu'à nous bouffer, à nous faire disparaître, c'est d'exister à travers l'Europe. Moi, je pense que ceux qui misent aujourd'hui sur le pur nationalisme font une énorme connie et sont des traîtres à notre pays. Je pense le plus profondément du monde, et je crois que dans 30 ans, on se rendra compte qu'ils ont trahi notre pays. La seule manière d'exister, si vous saviez comment les Chinois, ils pensent à nous bouffer, les Russes, ils veulent nous détruire.
Si je peux me permettre, monsieur Libic, j'y suis allé. Et je peux vous assurer que c'est... Mais alors là, mais absolument pas du tout.
Mais bien sûr que si.
Je peux vous assurer que vous parlez d'un produit français en Chine.
Même le vin. On vend plus de vin australien que de vin français. Arrêtez avec ça.
Ça, c'est juste la proximité géographique. Ah oui. À quel prix se vendront
les
vins
français? Mais pas du tout, c'est parce qu'il est très bon et moins cher.
Les vins français, et encore une fois, là, je suis à côté, je suis vraiment bien placé, parce que mes meilleurs amis sont producteurs de vin. Quand on discute avec leurs clients, parce que j'en ai quand même rencontré quelques-uns, la première des choses qu'ils vous disent, c'est peu importe le prix que vaut le vin français, on continuera en
importer. Mais on n'en vend pas.
Les vins crus Côte d'Or, ils partent à l'export avant d'être produits.
Mais je te parle de quantité.
Non, mais je comprends. Mais en fait, mon propos, il n'était pas du tout que la France doit être enclavée, recentrée sur elle-même. Au contraire, non, pas du tout.
Mais il n'y a pas de choix.
Je dis juste que tout simplement, il faut peut-être trouver à harmoniser les pays européens autrement que de la façon dont
mais
on
ça,
fait
c'est,
aujourd'hui.
Les gens disent ça. Je veux bien de l'Europe, mais une autre Europe. Sauf que personne n'est capable de la définir, cette merveilleuse Europe qui serait pas celle qu'on a. Elle n'est pas parfaite, celle qu'on a. Mais si on arrête de s'y opposer, peut-être qu'on va avancer.
Alors, merci Franck. On va arrêter la discussion ici, parce qu'il y a Antoine qui veut reparler des chants homophobes, des supporters, de l'arrêt du match Nancy-Le Mans vendredi dernier. On réécoute Didier Giraud et il en parle avec Antoine.
En quoi un cop nancéen de surcroît est obligé de chanter des chants homophobes à l'égard des Messins lors d'un Nancy-Le Mans, quoi? Ça, j'ai pas compris, moi.
Tous les matchs. Parce qu'il y a des rivalités régionales, parce qu'il y a de la haine.
Le supporter de foot est débile, vous m'excuserez, mais.
Ah, et voilà. Et c'est le mot débile qui a fait bondir Antoine de l'Essonne. Bonjour, Antoine.
Bonjour à vous.
Allez-y, Didier vous écoute. Antoine.
Bonjour. Alors, je vais juste répondre très rapidement par rapport à ce qui a été dit avant et la réponse de l'auditeur. Alors, débile, je pense pas que le supporter il soit débile à vouloir soutenir son équipe chaque week-end avec autant de ferveur. Après, les chants homophobes, je les trouve pas forcément homophobes parce que dans ces cas-là, il y aurait plein d'autres termes qui sont utilisés dans les stades qui seraient homophobes. Et le terme BD, j'ai envie de dire de nos jours, il n'est même plus significatif propre à l'homophobie. Culturellement, j'ai presque envie de dire que c'est devenu un terme presque normal.
C'est un mot commun du coup, BD, c'est plus une insulte, quoi.
Ben c'est presque ça, dans les stades en tout cas, faut pas le prendre comme une
insulte. Mais non, justement.
C'est ça le truc, c'est qu'il a été généralisé ce terme-là.
Mais non, clairement, justement.
Moi, j'ai une petite anecdote comme ça, juste pour montrer que le français n'est pas débile et encore moins le supporter. Une fois, j'ai été voir des amis dans le sud de la France et mon ami il m'a accueilli avec un « Oh putain, enculé, comment ça va ?» Mais enculé aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas un terme homophobe si on doit réfléchir à l'acte qui est soulevé avec ce terme-là, mais je l'ai pas pris comme ça.
D'accord, mais c'est pas le même contexte quand même, Antoine, vous en conviendrez. Oui, c'est non, pas le même contexte de chanter les Messins sont des enculés, alors que les Messins, ils étaient même pas sur le terrain, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je n'arrive pas à comprendre cette logique où on s'en prend à la capitale régionale d'à côté parce qu'il y a un antagonisme local, alors que Nancy est en train de jouer contre Le Mans. Ça, j'ai pas compris, quoi. Hein. C'est là où je dis qu'ils sont débiles, quoi.
Ben oui. Parisien, j'ai du sang rouge et bleu qui coule dans mes veines. Et quand on approche à un match PSG Marseille, il y a des insultes qui sortent mais dans ces insultes-là, il y a le mot PD, mais on les voit pas forcément comme ben des.
Mais
des
c'est
PD.
Là, moi, ben oui, mais c'est là que je peux pas être d'accord avec vous, Antoine. PD, c'est une insulte homophobe.
Oui, voilà. Les mots ont un sens, Antoine. Je comprends maintenant. Pour vous, c'est banalisé. Ben mais sauf que les mots ont un sens. Si ce mot il est employé, c'est bel et bien qu'il désigne quelque chose, une catégorie de gens qu'on met derrière ce mot. Même si pour vous aujourd'hui, ouais, on dit PD comme on dirait n'importe quoi. Oui. Mais non, justement, c'est ça qu'il faut pas racisme, banaliser. C'est bien ça qui pose problème.
Il y a beaucoup de mots sur le racisme qui se disaient. Ouais. Et qui ne se disent plus. Et à l'époque, ça voulait pas automatiquement dire qu'on haïssait ou qu'on méprisait la personne. Sauf que c'est plus entendable.
Merci Antoine d'avoir conclu nos discussions. Rendez-vous demain avec Barbara Lefebvre, professeure d'histoire-géographie, Jérôme Marty, médecin généraliste, Marianne Soubré, avocate. Oh non, de Zeus. Demain, on a deux Toulousains. Marianne et Jérôme. Et puis Georges Marc Benamou sera avec nous, le romancier, l'ancien conseiller Nicolas Sarkozy, l'homme qui avait côtoyé François Mitterrand. Georges Marc Benamou, il viendra nous parler de ce livre, Le Général a disparu. Il a brodé autour de l'étape Baden-Baden de Général de Gaulle, juste à la fin des événements de 68. Bonne journée et à demain 9h.
RMC, les grandes gueules.